Vous écoutez
RMC.
Il est précisément 6h30 sur RMC et RMC Story. Excellent réveil à tous. Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline. Bonjour à tous. Le ballon rond, source de tension. La gauche et les macronistes refusent de jouer avec le RN ce soir. Un match de l'équipe de France de football parlementaire. La campagne présidentielle de Valérie Pécresse visée par une enquête pour détournement de fonds publics. Et puis la communauté internationale, même la Chine cette nuit, qui ne reconnaît pas le oui au référendum russe en Ukraine.
Les clivages politiques s'invitent même dans le foot.
L'équipe de foot parlementaire, où il devait jouer un match caritatif ce soir, avec pour la première fois des députés RN qui sont passés de 17 à 89 cet été. Mais la gauche et même les macronistes donc décident de boycotter cette rencontre, nous dit Alfred Orange pour RMC.
Les premiers à le faire savoir ont été les députés socialistes. Dans un communiqué, les élus se justifient, indiquant refuser cette banalisation de l'extrême droite. Insoumis et écologistes leur emboîtent alors le pas, se disant plus enclin à tacler l'extrême droite qu'à lui faire des passes. Un carton rouge adressé au Rassemblement National et à ses quatre joueurs de champ. Dans la soirée, c'est au tour de la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée d'envoyer ses consignes. Aurore Berger recommande aux députés de la majorité de ne pas participer à ce match, redoutant la photo des équipe bras dessus, bras dessous avec les députés RN. La directive agace les députés issus des partis proches de la majorité présidentielle. Un participant grommelle. Cela fait des années que le RN fait partie de l'équipe de rugby et personne n'a jamais rien trouvé à y redire.
Même à ce sujet, la majorité se divise hein, puisque des députés Renaissance et Modem considèrent qu'il faut jouer ce match avec les députés RN.
Et n'hésitez pas d'ailleurs à réagir. Le 32-16 vous est ouvert. Est-ce que vous estimez que les députés de gauche et du centre doivent boycotter ce match puisqu'il y a des députés RN? N'hésitez pas à nous appeler.
Les cadres de la majorité qui dîneront ensemble ce soir à l'Élysée pour parler notamment de la réforme des retraites et surtout mettre les choses au clair après les divergences de points de vue hein, observées depuis quelques semaines en présence du ministre Bruno Le Maire, le ministre qui apportera désormais des cols roulés, donc plutôt que des cravates, dit-il, pour montrer l'exemple en matière de sobriété. On reparle de la présidentielle. Je vous le disais ce matin avec cette enquête préliminaire ouverte pour un détournement de fonds publics. C'est Valérie Pécresse, candidate à l'air, qui est visée pour le financement de sa campagne après un signalement qui remonte au printemps dernier, signalement de l'écologiste à la région, Julien Bayou, comme nous l'explique Hélène Tersion du service politique RMC.
Dans son signalement, Julien Bayou pointe le mélange des genres entre la présidente de la région Île-de-France et la candidate à la présidentielle. L'élu écologiste s'appuie sur un courrier de la conseillère régionale Babette de Rosière, une lettre dans laquelle elle annonce quitter l'équipe de campagne de Valérie Pécresse, notamment parce que la candidate ne serait pas venue aux événements qu'elle a organisés, je cite, dans son intérêt. Julien Bayou sous-entend donc que des moyens de la région auraient été mis au service de la campagne. Le signalement mentionne également des pratiques clientélistes dénoncée par Babette de Rosière de la part du vice-président de la région qui n'a pas répondu à nos sollicitations. Dans l'entourage de Valérie Pécresse, on l'a dit sereine en précisant que toutes les règles ont été scrupuleusement respectées. Elle a l'intention de porter plainte contre X pour dénonciation calomnieuse.
Il est 6h33 sur RMC et même la Chine, cette nuit, ne reconnaît pas les résultats des référendums russes en Ukraine. La Chine, pourtant alliée de la Russie, hein, sans surprise, c'est le oui pour l'annexion qu'il a emporté dans quatre régions ukrainiennes occupé par les Russes avec des scores qui vont jusqu'à 99% de oui. Ni la France, donc, ni les Nations Unies, ni l'Ukraine de Volodymyr Zelensky ne prendront en compte ces résultats.
La reconnaissance par la Russie de ces pseudo-référendums considérés comme normaux, la mise en œuvre du même scénario qu'en Crimée et une énième tentative d'annexer une partie du territoire ukrainien signifie que nous n'avons pas à discuter avec l'actuel président russe. L'annexion est le genre de manœuvre qui le met seul contre l'ensemble de l'humanité.
Et ce matin, tous les regards sont braqués vers la mer Baltique où la Commission européenne accuse les Russes d'avoir saboté ses propres gazoducs, ces deux gazoducs Nord Stream qui relient la Russie à l'Allemagne. Deux explosions sous-marines recensées d'une magnitude quand même de 1,9 avec des bouillonnements observés dans un diamètre d'un kilomètre avec du gaz qui remonte à la surface. Ces gazoducs n'étaient pas ou plus en service depuis cet été, mais du gaz se trouvait toujours à l'intérieur. Il est 6h35 sur RMC et il y a du nouveau ce matin dans le scandale qui touche la pornographie en France. Quatre nouveaux acteurs placés en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour viol en réunion au moment où le Sénat dévoile, ce sera aujourd'hui, un rapport intitulé « Porno, l'enfer du décor, 6 mois de travail » mené par quatre sénatrices pour un constat horrifiant que nous décrit Lucille Pascanet pour RMC.
Des actrices d'abord très souvent jeunes et vulnérables, et forcées, depuis l'explosion du nombre de vidéos pornographiques sur Internet, à tourner des contenus de plus en plus trash, dans des conditions déplorables, dénoncent les sénatrices. Une victime citée dans le rapport parle de viols répétés, filmés contre son gré. « Je suis devenue un robot pour me protéger », déclare une autre, forcée à des pratiques sexuelles qu'elle avait refusées. Aujourd'hui, 90% des scènes comportent de la violence, qu'elle soit physique, sexuelle ou verbale, ce qui favorise la culture du viol chez les adultes, mais aussi chez les plus jeunes, massivement exposé, pointe ce rapport. Face à ce constat, 23 préconisations. Parmi elles, faciliter le droit à l'oubli pour les actrices, aborder la pornographie à l'école. Les rapporteurs vont jusqu'à proposer de cibler les consommateurs. Regarder une vidéo mettant en scène un viol pourrait devenir un délit.
Le décompte est lancé en Bretagne. Il reste entre 35 et 45 jours de réserve pour l'alimentation en eau potable dans certains secteurs comme les Côtes d'Armor qui viennent de placer le département en alerte en raison de la sécheresse. Ça brûle encore dans le sud, c'est pourtant l'automne, mais un incendie rapidement maîtrisé hier en fin de journée près de Sète à Frontignan dans le quartier des plages. C'est une des stars du foot en Algérie. On parle ce matin de Youssef Belaïli, la recrue phare du club de Brest. On en parle car les Brestois n'en veulent plus. Une résiliation de contrat est en cours, c'est assez rare pour ce joueur qui multiplie les dérapages sportifs. Xavier Grimaud pour RMC.
Oui, lorsqu'il atterrit dans le Finistère en janvier dernier, ce sont des centaines de milliers de fans algériens qui se mettent à suivre le Stade Brestois sur les réseaux sociaux. Belaïli, 30 ans, méga star au Maghreb, mais qui n'a jamais percé en Europe. Brest tentait un pari. 19 matchs joués, un talent indéniable, mais son manque d'effort et de rigueur professionnelle agace rapidement. Resté sur le banc face au PSG il y a 15 jours, Belaïli aurait ainsi décidé de rester dans la capitale, snobant le voyage retour avec l'équipe, sans prévenir personne. Ce comportement individualiste, la goutte d'eau pour le club breton, excédé également par son hygiène de vie et plusieurs dérapages nocturnes. Une facture de 40 000 euros aurait ainsi été reçue par le club pour de graves dégradations causées dans sa maison. Belaïli jouait en sélection hier soir. Il est officiellement attendu à Brest aujourd'hui pour acter la fin d'un flop. Le joueur veut partir et Brest n'a aucune intention de le retenir.
Et puis soirée gâchée complètement au Parc des Princes à Paris où le Brésil a battu la Tunisie 5-1 hier soir en amical, mais gâchée par un jet de banane notamment visant le Brésilien Richarlison. Match brièvement interrompu pour des lasers pointés en direction des joueurs. L'hymne brésilien sifflé aussi, ça a surpris les Brésiliens. Le foot ne justifie pas tout, voilà ce que déplore le sélectionneur du Brésil.
Et puis le quintet, Quentin, c'est en Normandie à Vire.
13h50, RMC Découverte, le 11, le 3, les pronostics ce matin de la Dream Team des courses RMC, le 11 en favori, Pharrell Seven, le 3 en outsider, Eddy du Pommereux.
C'était le journal de Quentin Vinet, il est 6h37 sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
C'est votre avis dans un instant. Est-ce que vous suivrez l'avis, le conseil même de Bruno Le Maire? Il annonce qu'il va mettre des cols roulés tout l'hiver pour éviter de mettre le chauffage et ainsi montrer l'exemple. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vraiment c'est un exemple à suivre? Est-ce que vous estimez que c'est le rôle du ministre de l'économie de nous dire comment s'habiller? Ou est-ce que c'est infantilisant peut-être? Je vous attends en tout cas pour en débattre au 32-16.
RMC Police Justice.
Mais avant cela, et comme chaque matin, l'histoire du jour repérée par le service police-justice d'RMC. Aujourd'hui, on vous parle d'un couple près de Montbéliard qui a réussi à détourner 30 kilos d'or, Guillaume Biais.
Oui, leur petit manège durait depuis plus d'un an et leur a rapporté une fortune. Méthode bien rodée pour ce couple. Lui, 38 ans, travaille en Suisse, juste de l'autre côté de la frontière, dans une entreprise de métaux précieux. Elle, 49 ans, habite dans un petit village près de Montbéliard. Ils ne vivent pas sous le même toit, mais ils partagent le même trésor. Des dizaines de kilos d'or, patiemment volés par l'employé indélicat qui glissait un peu de métal doré dans ses poches en quittant le travail et en échappant à tout contrôle. Sa compagne, elle, se chargeait ensuite de revendre par petites quantités dans une boutique de rachat d'or peu scrupuleuse et bien arrangeante. 25 kilos au total, à un prix inférieur au marché, 715 000 euros. De quoi rouler sur l'or pour ce couple qui s'est offert des voitures de luxe et un train de vie clairement supérieur à leurs revenus. Mais ce n'est pas ça qui les a trahis. Non, c'est plutôt la quantité d'or écoulée dans la petite boutique. Le livre de police du magasin où sont consignées toutes les transactions était éloquent. De quoi déclencher une enquête et remonter la piste des suspects. En perquisition, les policiers ont retrouvé 5 kilos d'or en petits morceaux, prêts à être revendus. Le couple a été mis en examen, tout comme le commerçant, qui a désormais interdiction d'exercer.
Et à 6h39, c'était Guillaume Biais, du chef du service police-justice d'RMC.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h41, bienvenue si vous nous rejoignez.
C'est votre avis.
Un col roulé pour montrer l'exemple. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a lancé ça hier quand il a été interrogé sur les mesures d'économie d'énergie à Bercy, son immense ministère. Écoutez la réponse.
Nous ne mettrons pas le chauffage tant que la température ne sera pas en dessous de 19 degrés. Donc, vous ne verrez plus avec une cravate, mais avec un col roulé. Et je pense que ce sera très bien, que ça permettra de faire des économies d'énergie, de faire preuve de sobriété. C'est la manière la plus efficace de passer l'hiver sans avoir à couper l'énergie pour qui que ce soit.
Alors hier, il avait encore une cravate et une chemise, mais visiblement, c'était la dernière fois, puisqu'ensuite, il s'est même posté sur les réseaux sociaux, tout sourire, dans son bureau à Bercy, avec un col roulé. Alors, est-ce que vous estimez que c'est exemplaire, que c'est effectivement une bonne idée, après nous avoir demandé de ne pas mettre le chauffage à plus de 19? Ou est-ce que ça vous agace que le ministre de l'économie se mêle de tout cela? Je voudrais d'abord donner la parole à Nicolas, qui nous a appelé de Nîmes. Oui. Bonjour Nicolas. C'est pas Nicolas Poincaré, mais vous inquiétez pas, il aura la parole aussi. Bonjour Nicolas.
Oui, bonjour.
Alors Nicolas, vous êtes à Nîmes, vous êtes agriculteur. Alors peut-être qu'agriculteur, déjà, vous mettez pas de costume cravate.
Non, ça peut m'arriver, mais...
Voilà, mais pas au quotidien, disons.
Pas au quotidien. Après,
bon, ça c'est votre liberté.
Oui, après ce que j'ai envie de dire, c'est que... on attend le bonnet après.
C'est ça. Ouais. C'est la prochaine étape, c'est de remplir sa feuille d'impôt avec des moufles.
Le plan bonnet.
Ouais, de toute façon, ils font toujours des choses par tranche. C'est toujours ils montent par cliquet. Donc dans 6 mois, ce sera le bonnet. Puis l'année prochaine, on va mettre l'écharpe. Et puis après, ce sera les gants. Faut qu'ils arrêtent. Ça fait 30-40 ans que. Il y a des gens bien intentionnés qu'on critique souvent, des écolos. Après, moi, je parle pas des partis politiques. Je parle des gens qui ont fait des diagnostics depuis longtemps sur la dépense d'énergie, sur la gabegie énergétique.
Ouais.
C'est pas maintenant on se réveille, mais c'est même pas du temps de Monsieur Macron. Ça fait longtemps qu'on prévient,
qu'il faut arrêter de gaspiller.
Qu'on fait n'importe quoi. Il y a un tiers de ce qui est produit qui est jeté. Voilà, je voudrais que tout le monde m'entende aujourd'hui. Il y a un tiers de ce qui est produit qui est jeté.
C'est clair,
ça, c'est
Nicolas.
C'est pas la dépense énergétique.
Ce que vous voulez dire, c'est que ça vous paraît un peu ridicule, le contraste.
Sert à quoi de produire des choses qui sont jetées? Franchement, ça sert à quoi?
S'il y a peut-être une bonne nouvelle quand même dans l'époque qu'on traverse, c'est que ce que vous dites là, Nicolas, et qui est en effet pas nouveau, mais c'est davantage audible. C'est-à-dire qu'on touche du bois davantage de manière tangible, les limites, et peut-être l'idée que on ne peut pas continuer à consommer, jeter. Emmanuel Le Chip qui a mis sa plus belle cravate, je dois dire, ce matin. Emmanuel, vous considérez que la cravate, c'est la réponse justement?
Ça tient bien chaud la cravate autour du cou.
C'est pas demain que vous verrez un col roulé.
Jamais.
Alors que Nicolas Poincaré, je vous imagine assez bien col roulé, non?
Je déteste le col roulé. Ça gratte. Alors le col roulé en extérieur, pourquoi pas s'il fait très froid, effectivement. Voilà. Mais alors le col roulé à l'intérieur, c'est juste inenvisageable.
Monsieur Le Maire va mettre un col roulé, mais va l'enlever dans son bureau.
Je remercie Nicolas de briser ce tabou. Le col roulé gratte et il faut le dire.
On est sur du gros débat.
Apolline, le col roulé, c'est un conseil que vous donne votre mère. C'est pas ce que vous attendez du ministre de l'économie.
C'est exactement
moi, ce que j'attends du ministre de l'économie, c'est par exemple qu'il me dise, voilà, regardez les 10 applications que vous ne connaissez pas, que vous mettez sur votre smartphone, qui vont vous permettre d'économiser de l'énergie chez vous, de gérer votre chauffage, de gérer tout ça. Des trucs un peu experts.
Quand je reçois Elisabeth Borne lundi, je m'entends lui dire, est-ce que vous avez mis le chauffage? Et je me dis, bon, cette question, elle est parfaitement légitime, puisque désormais, en effet, le gouvernement nous dit quand est-ce qu'on doit mettre le chauffage ou pas, nous culpabilise si on le met un peu trop, nous dit, si vous avez froid, mettez un pull ou désormais un col roulé. Mais c'est vrai que jamais, pour tout vous dire, je n'aurais imaginé que quand j'allais recevoir la première ministre, j'allais devoir lui demander à combien elle met le chauffage chez elle, et puis la prochaine fois que je recevrai Bruno Le Maire, m'assurer qu'il a bien mis un col roulé. Enfin, je veux dire, c'est vrai que, est-ce que c'est ce qu'on attend du gouvernement?
Mais moi, je vous ferai la liste des 10 applis qu'il faut absolument avoir pour faire beaucoup d'économies.
Non, alors ça, ils ont promis d'ailleurs que dans les jours qui viennent, on devrait avoir une campagne de pub sur chaque geste compte.
Et ça fait combien de temps que c'est prêt et que ça sort pas?
Qu'est-ce qu'ils attendent là?
Ils ont peur de demander trop d'efforts aux Français.
Oui, pour autant, ils nous demandent quand même les cols roulés. Nicolas, restez avec nous. Il y a aussi Zaya qui est en Seine-et-Marne. Bonjour Zaya.
Bonjour.
Zaya, vous êtes banquière, alors j'ai envie de vous poser la question aussi à vous, parce que c'est vrai qu'en fond, on parle des hommes avec les cols roulés, mais nous aussi, on a peut-être se retrouver à mettre des cols roulés.
Oui, bien sûr. Mmh. On n'a que ça à faire que de mettre des cols roulés au travail, à la maison. C'est la nouvelle solution pour faire des économies d'énergie. Non, oui. Mais plus sérieusement, le ministre de l'économie, on l'attend ailleurs que nous donner une réponse qui est celle de mettre un col roulé pour faire des économies. Moi, j'attends du ministre qu'il fasse des efforts et trouve des solutions pour limiter l'inflation, oui, et développer de manière pérenne notre économie, justement, qui part en vrille, entre guillemets. Mm. Moi, aujourd'hui, c'est pas du tout la réponse que j'attends de notre ministre. Hein. Cela dit,
bien sûr qu'on se dit il est ministre de l'économie, il n'a pas à nous dire comment nous habiller. Mais Zaya, c'est vrai que c'est ce qu'on se disait aussi avec Nicolas à l'instant. C'est-à-dire qu'il y a quand même un problème aujourd'hui, on touche du doigt en effet un problème de limite de nos ressources, de limite de l'électricité, de risque de blackout. Et donc on en vient un peu chacun à se débrouiller. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui devrait plutôt venir de la population au fond.
Oui, mais pas que de la population. Ouais. Nous, on paye des factures. Donc, on le voit très bien au quotidien dans nos factures qu'il faut qu'on limite notre consommation. Et ça, je suis parfaitement d'accord. Mais je rejoins Monsieur Le Chypre. Ça fait des années qu'on gaspille. Les panneaux LED qu'on voit au quotidien pour de la publicité, tout ça, enfin, on n'en a peut-être pas besoin. On peut aussi regarder de ce côté-là. Les entreprises aujourd'hui n'ont pas encore pris le pli de faire des économies sur l'énergie aussi. Hein.
Non, et puis c'est vrai qu'on se dit on va tous faire des petits efforts pour mettre des cols roulés qui grattent, hein, selon Nicolas et Charles, qui sont les deux nos témoins du jour ce matin. Oui. Et en même temps, c'est vrai qu'on va envoyer nos joueurs au Qatar dans des stades avec de la clim à ciel ouvert. Ouais. Donc c'est vrai qu'on se dit chacun son petit geste, ok, mais dans ces cas-là, on le fait peut-être tous. Merci Nicolas et Zaya. Et je vous signale un message à l'instant, un texto que je reçois d'Alain Marchal. Alain qui me dit coucou. Alors est-ce que les GG seront tous en col roulé? Mystère. À suivre tout à l'heure dans RMC Story. Suivez donc mon regard, les GG que vous retrouverez tout à l'heure à 9h. Et je leur passe le bonjour. Il est 6h49.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, Nicolas, il y aura votre portrait du jour.
Ouais, elle s'appelle Isabelle Mebarak Ripoll, mais elle est plus connue sous le nom de Shakira, la chanteuse. Elle risque de faire de la prison.
Oh, bah dis donc. Ouais. Oui, ça nous a tous un peu scié, ouais. Charles.
Eh bien, après les chaussettes, après les baskets, après les claquettes, Lidl lance une voiture.
Faut qu'il lance pas des cols roulés. Allez, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Bienvenue sur RMC, si vous nous rejoignez. Il est bientôt 7h et je vous donne le programme de la suite de la matinale. D'abord, on va rire. Deux rendez-vous avec Arnaud Demanche à 7h20 et à 8h20. 7h40, le patron d'Intermarché. Il sera l'invité du jour. Venez donc l'interpeller au 32-16 sur les prix, vos habitudes de consommation. J'interrogerai aussi sur la sobriété énergétique. Quel geste faut-il dans ces magasins pour participer à l'effort collectif, outre le fait de mettre, bien sûr, un col roulé. 8h30, ce sera David Lisnard, le maire LR de Cannes, qui sera mon invité. Il est président de l'Association des maires de France. Les maires qui se retrouvent en première ligne aujourd'hui dans la société. Toutes les questions, ce sera à 8h30.
RMC, Apolline Matin.
Le portrait du jour.
Et le portrait du jour, Nicolas Poincaré, c'est celui de Shakira. La chanteuse sera jugée en Espagne pour fraude fiscale. Elle risque de la prison ferme.
Oui, alors on n'a pas encore la date du procès, mais on sait qu'il se tiendra à Barcelone et qu'il va attirer toute la presse internationale parce que Shakira est une star mondiale. Une chanteuse qui a connu le succès enfant. Elle a sorti son premier album à 13 ans. Elle a grandi à Bogota, en Colombie. Elle était la fille d'une mère colombienne d'origine espagnole et d'un père américain d'origine libanaise. Elle est auteure, compositrice, interprète, mais aussi danseuse, connue notamment bien sûr pour sa danse du ventre. Dès le début des années 2000, tous ses albums cartonnent. Elle est souvent numéro 1 dans 30 pays en même temps. 80 millions d'exemplaires vendus, des tournées mondiales qui remplissent les stades. Très connue aux États-Unis aussi, où elle est une des jurées de The Voice. Et puis en 2010, elle est l'auteure naturellement de Waka Waka This Time pour Africa. C'était l'hymne de la Coupe du Monde de foot en Afrique du Sud.
Cette musique. Mais bon, sauf que dans tout ça, Shakira aurait oublié de payer ses impôts en Espagne.
Et oui, parce qu'en 2011, la chanteuse colombienne s'est donc installée à Barcelone pour vivre avec Gérard Piqué, le footballeur du Barça, avec qui elle a eu deux enfants. Mais elle est restée à ce moment-là résidente fiscale aux Bahamas, qui est un paradis fiscal. Elle estime qu'elle n'avait pas à déclarer ses revenus en Espagne parce qu'elle y avait passé moins de 6 mois par an dans le pays. Sauf que le fisc espagnol a mené l'enquête et conclu qu'entre 2012 et 2014, elle a passé 7 ou 8 mois par an à Barcelone et pas un jour aux Bahamas. Le fisc lui a proposé de passer un accord, ce qu'elle a refusé, question de principe, parce qu'elle est sûre de sa bonne foi. C'est donc la justice qui va trancher et le parquet a fait savoir qu'il allait requérir plus de 8 ans de prison et 24 millions d'amendes. En refusant de plaider coupable, elle a donc pris un gros risque.
Oui, non, restera sa musique, mais je ne sais pas si elle pourra chanter en prison. Charles.
Les histoires de Charles.
Nouveau coup de com. Coup de com de Lidl qui sort une voiture.
Eh oui, tout est parti d'un poisson d'avril. Le 1er avril dernier, le magazine Automoto publie un tweet dans lequel il annonce qu'après les claquettes, après les chaussettes, après les baskets, Lidl s'apprête à lancer un SUV Lidl. Le message fait sourire les internautes et quelques mois plus tard, voilà que Lidl décide d'en faire une réalité. 3 voitures, alors pas des SUV mais des mini, 3 mini ont été designées aux couleurs de Lidl, du bleu, du jaune, du rouge. Alors attention, elles ne sont pas à vendre mais à gagner. C'est un coup de com', un jeu concours.
On les voit là sur RMC ouais. Story et franchement elles sont assez mignonnes. Hein.
Bah oui, elles sont,
elles sont très rigolotes.
Oui, elles donnent envie. En tout cas, c'est donc un jeu concours pour inciter les clients à télécharger l'application de la marque. Bon, nul doute que les 3 gagnants feront fureur avec leur mini Lidl. Pour l'instant, les internautes sont divisés. Il y a ceux qui rêvent de rouler en mini Lidl et ceux qui trouvent qu'elle ressemble surtout à la voiture de Oui-Oui.
Elle ressemble à la voiture de Oui-Oui et à un Rubik's Cube. Mais c'est pas parce qu'elle ressemble. Mais c'est pas parce qu'elle ressemble à la voiture de Oui-Oui qu'on n'a pas envie de rouler dedans.
C'est
au contraire, peut-être que c'est notre plus grand fantasme depuis l'enfance.
Toujours, si vous avez toujours rêvé de rouler dans la voiture de Oui-Oui, tant pis,
elle était décapotable, la voiture de Oui-Oui.
C'est vrai. Et là, elle n'est pas décapotable. C'est pas tout à fait la voiture de Oui-Oui. Autre info qui n'a rien à voir, Charles. Après le décès de la reine Elisabeth II, même les Français rêvent d'adopter des corgis.
Mais oui, des corgis.
Corgis,
oh,
ouais.
On en a déjà beaucoup parlé.
J'avoue, ils m'ont pas passionné, moi, les corgis.
Et ben pourtant, outre-Manche, ça cartonne. Hein, là-bas, les prix ont explosé, multiplié par 2. Plus de 3000 euros pour un corgi en Angleterre, mais en France aussi. Et oui, BFM TV a interrogé des éleveurs qui témoignent d'un nombre d'appels en forte hausse ces derniers jours pour adopter des corgis. Alors chez nous aussi, les prix ont progressé. Hein, 2700 à 3000 euros pour un corgi français. Et les éleveurs assurent qu'ils essayent en ce moment de faire le tri entre les clients qui avaient déjà pour projet d'acheter un corgi depuis quelques mois et ceux qui se lancent de manière un peu impulsive, là, en ayant vu les chiens toute la journée à la télé, en rappelant évidemment qu'un chien n'est pas une peluche et qu'acheter un corgi, c'est s'engager au minimum sur une quinzaine d'années.
C'est quoi la caractéristique principale du corgi?
Bah, c'est d'être mignon, je crois.
Il est bas sur pattes.
Ah oui, il est bas sur pattes. Hein, il est quand même très, très bas sur pattes.
Et puis surtout, c'est le chien préféré.
Bah, c'est ça. En fait, c'est quand même la première voilà. Qualité du corgi. Il est 6h56, le portrait 2.K, les histoires de Charles. Vous les retrouvez en podcast sur l'appli RMC. Il est 6h56 et dans un instant, c'est la météo, le journal, à la une du journal de 7h. Ce dîner crucial entre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron autour de la réforme des retraites.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.